Bien, vamos a retomar la sesión con la tercera y última ponencia de esta mañana, que es a cargo de María de Lourdes Rosa y Filipa Silva López, de la Universidad de Nova Lisboa, y con la ponencia intitulada Le Projet Invent Art, no sé si esto hay que pronunciarlo así, Archive Familiales, Portugal, XVIII o XVII siècle, conserve et inventorie pour bien gérer. Luego habrá el debate conjunto de las tres ponencias de esta mañana.
Hola, buenos días. En primer lugar, quería pedir disculpa, pero no andamos a hablar ni catalán ni español, pero simplemente francés, porque nosotros si hablamos de español lo hablamos mal. Entonces, yo sé decir estas cosas, pero muy pocas, pero en español más serio no. Entonces, tout d'abord, je voudrais remercier Tunde l'invitation pour participer à ce congrès, à ce colloque très intéressant qui fait partie de notre programme de recherche commun, Archifam. Et je suis très contente d'être ici. Et c'est aussi une opportunité de présenter notre projet Inventarc, qui est un projet siégé à l'Université Nouvelle de Lisbonne, mais qui a des liens avec Archifam aussi, comme vous pouvez le voir après. Yo he portado este PowerPoint también porque, como está escrito en francés, pueden leer. Bueno, je voudrais remercier enfin à tous l'organisation d'Archifam aussi. Véronique n'est pas là, mais dans la personne de Philippe et à l'Université de Gironde, enfin, la CAI. Je suis ici avec notre boursière de projet, Philippe Haas, qui a fait un très bon travail depuis un an et travaille avec nous, et qui va présenter la partie la plus pratique du projet, c'est-à-dire la base de données. Et moi, je vais présenter le contenu plus intellectuel, disons, du projet. Alors, la table des matières de cette présentation, après, tout d'abord, je vais présenter rapidement le projet. Et après, je vais poser quelques questions auxquelles nous sommes arrivés après 12 mois de travail. Nous avons commencé en mars de l'année dernière. Et donc, nous avons déjà un travail fait. Nous allons terminer dans 6 mois, donc en septembre de cette année. Ensuite, je vais présenter une liste rapide des inventaires étudiés et la base de données sera présentée par Philippa. Alors, le nom du projet, c'est Inventaire d'archives de famille du 15e au 19e siècle, de gestion épreuve aux mémoires perdues. Et avec cette notion, cette question problématique, repenser l'archive prémoderne. Qu'est-ce que c'est les archives prémodernes, en effet? Il a été proposé au concours de projets exploratoires de la Fondation Scientifique Technologique. C'est l'agence de financement de la recherche au Portugal. Bon, j'ai mis ces nombres ici parce que nous sommes très orgueilleux. Donc, on a seulement approuvé 3 projets en histoire et un, c'était le nôtre. Bon, il faut mettre toujours ça. Et nous avons eu un petit financement quand même, mais assez important pour nous. Il va durer, comme j'ai dit, jusqu'à septembre. Il est siégé au IEM, c'est l'Institut d'études médiévales de l'Université Nouvelle de Lisbonne. Et il y a avec, comme institution collaboratrice, 2 autres institutions de la faculté, le CHAM et l'IHC. Ce sont des institutions de recherche respectivement d'histoire moderne et d'histoire contemporaine. Et l'autre, qui est IICT, c'est un archive et institution de recherche sur les archives des anciennes colonies portugaises. Ça veut dire que ceci a été fait parce que notre projet, en effet, il traverse les époques historiques et il n'est pas, il y a des familles qui qui avaient des possessions aussi dans les colonies d'outre-mer. Donc nous n'avons pas voulu faire une chose fermée, constreignée par les époques historiques, car nous pensons que le phénomène des archives familiales d'Ancien Régime ne se comprend pas que comme cela, au travers les époques. Il a aussi l'item et la Casa de Velázquez. Alors, les objectifs du projet, ce sont étudier historiquement le contexte de production et d'usage des inventaires d'archives de familles nobilières d'Ancien Régime. Je mets des sous-thèmes, mais c'est surtout l'histoire des inventaires qui nous intéresse, et alors l'histoire des familles, l'histoire des archives vient à cause de cela. Après cette première question, il y a une partie archivistique et diplomatique qui souhaitent de faire la description des inventaires et mettre ces descriptions en ligne. Et enfin, ça c'est très important aussi, pour promouvoir l'étude, la réflexion, etc., de ces documents, penser qu'est-ce que c'était inventorié dans ces archives d'organisation. Nous prenons ces archives, comme le professeur a dit, ils n'étaient pas, avant la création des archives nationales par la Révolution libérale, ils n'étaient pas des archives historiques, ils étaient des archives d'organisation, de gestion. Donc, on veut les interpréter comme ça. Et pour cela, on a choisi de les regarder du côté de l'histoire anthropologique. Qu'est-ce que c'est le corps familial? Qu'est-ce que c'est sa production documentaire? De l'archivistique et aussi de l'épistémologie concernant les usages historiens et archivistiques. Et ça, c'est très important parce qu'il faut réfléchir sur la façon dont les historiens utilisent les archives et les représentations archivistiques. Il y a souvent un usage sur les contenus et pas sur la forme. Nous trouvons que c'est très important de penser sur cette forme, sur cette transmission conditionnée par la forme. Le projet aura et a déjà quelques expressions publiques et quelques produits, donc une page web qui n'est pas encore terminée, donc je ne vais pas la montrer, mais qui va intégrer le logiciel ICA-ATOM, où sont les descriptions archivistiques, et qui va inclure quelques numérisations des inventaires, des images, etc. Et pour quelques inventaires qui sont des mains des propriétaires privés, nous allons faire des copies qui seront déposées, des copies digitales qui seront déposées aux archives nationales ou à l'ABN, dans leur site, et nous ferons un lien pour cela. Nous avons déjà fait un séminaire, Anne Goulet était là, Véronique aussi, en février. Nous allons faire au mois de janvier une exposition aux archives nationales du Portugal, de la Tour du Tombeau, avec ses inventaires des différentes institutions publiques ou des inventaires qui sont en main privée. Très important pour nous, promouvant les archives de famille comme patrimoine historique et culturel et ouvrant ce projet de recherche au public. Ça, c'est important pour nous parce que nous travaillons avec beaucoup de propriétaires privés et ces expositions sont importantes pour qu'ils trouvent que l'ouverture à l'université, c'est important. Et enfin, nous allons publier un catalogue raisonné avec des textes sur les inventaires, les entrées du catalogue, avec aussi des textes sur le métier d'inventorier, soit du point de vue de l'archivistique, des techniques, soit du point de vue de la gestion et sur les archives de famille en général. Alors, j'ai déjà un peu parlé de ça à Pau, donc je vais passer. Bon, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas là, donc nous voulons, depuis les dernières décades, le travail ensemble des archivistes plus théoriques, plus intéressés à la réflexion sur leur métier et aussi des nouveaux regards des historiens qui précisément refusent de regarder ou d'utiliser seulement le contenu et pensent aussi à la forme, à l'ordre, au désordre, etc., nous donne des nouvelles façons de penser ces réalités. Alors, tout d'abord, les archives de famille, pas comme des archives historiques, ils le sont maintenant pour nous, mais auparavant, dans l'Ancien Régime, ils étaient des archives d'organisation. La famille comme organisation, précisément, qu'est-ce que c'est la famille, quelles sont les bornes juridiques, etc., de la famille, les documents de constitution, ce n'est pas par hasard que dans les archives familiales, normalement, il y a toujours une série avec les testaments, les dos, les institutions de majorat, des fidécomices, etc., parce que c'était la loi interne à la famille. Et après, il y a les documents de gestion organisés par territoire, parce que c'était l'expression concrète de la famille. Donc, regardant ça, on comprend bien la famille comme organisation. Enfin, quelle est la nature, quels sont les types, les modalités de l'information produite en contexte familial, parce qu'il y a des choses communes et des choses différentes des autres archives. Enfin, nous allons voir aussi les pratiques de production, comment elles étaient produites, conservées, utilisées, les archives, et les inventaires d'archives de famille seront regardés comme des vestiges des stratégies internes et externes de reproduction sociale, défense des droits, accroître prestige. Il y a la question de la technique, bien sûr, mais ces inventaires d'archives ne sont pas, comme on voit parfois dans les articles, ne sont pas des instruments de description documentaire, comme maintenant. Ce sont toute une autre chose. Et les inventaires de Pau et les inventaires de Navarre, on voit bien comment la dimension de trésor, la dimension monumentale est très importante. On peut même voir que les inventaires construisent les familles, les archives de famille et les familles a posteriori. L'étude de Joseph Morcel sur les archives de la noblesse de Nuremberg, on le voit bien, au 15e, 16e siècle, ils ont organisé les archives en délignage, regroupant dans cette réalité lignagistique des organisations familiales du 10e siècle ou même avant, où la famille n'était pas organisée en lignage, donc ils ont créé une illusion rétrospective de que le lignage existait depuis cette époque, ou du moins que le lignage était la suture la plus importante dès cette époque. Hein. C'est vrai que non, c'était plus tardif. Et on voit aussi dans ces inventaires du 18e siècle et du 19e siècle qui sont faits pour répondre aux exigences de la couronne absolutiste et de l'État libéral. Et je suis certaine qu'ici, en Espagne, c'est un peu la même chose, parce que dès la moitié du 18e siècle, la couronne impose beaucoup de contraintes dans la structure de la propriété vinculés dans les majorats et dans les chapellanies, etc. Et dans cette contrainte, il y avait une partie documentaire. Il fallait produire les institutions, les testaments, etc. Et il fallait les présenter aux autorités selon un formulaire. Donc tout cela a contribué à des réorganisations des archives et des réorganisations des archives en fonction de ces formulaires que l'État central demandait. On voit ça d'une façon complètement claire dans l'État libéral à l'époque de l'abolition de la propriété vinculée. Nous avons un inventaire qui a été complètement créé pour répondre au formulaire du bureau que devaient registrer les documents de la propriété vinculée. Jamais, jusqu'à ce moment-là, la famille avait une idée tellement complète de ses propriétés, même parce que cette famille habitait en Inde et avait accumulé des majorats au Portugal qu'elle ne connaissait pas jusqu'à cette époque. Enfin, on va voir, ici nous sommes aussi dans cette question, les inventaires comme source pour l'histoire des formes de représentation du passé par les familles. Cette question de Nuremberg, c'est très clair, cette question des lois de l'abolition de la propriété vinculée, c'est clair, au contraire. On voit qu'il y a aussi des impositions de façon de regarder le passé du dehors. Enfin, ça nous intéresse beaucoup comme une question de technique archivistique plutôt, mais aussi d'histoire, des listes, des représentations culturelles, etc. les inventaires comme source pour l'étude de l'évolution générale des formes de représentation et de repérage des documents, dans un contexte organisationnel. Toujours, on ne regarde pas la famille comme, on ne regarde pas ces inventaires, ces archives comme historiques. Directement, alors, les inventaires comme source pour l'histoire des savoirs archivistiques. Il y avait les feudistes, il y avait les responsables pour le chartier, des érudites. Et ces érudites étaient souvent des propriétaires au XVIIIe siècle, le seigneur illustré, etc., qui commence à organiser ses propriétés et ses archives avec un souci d'un côté de gestion et de l'autre côté, pour les documents les plus anciens, déjà un souci historique. Donc, quelquefois, ils ont séparé les documents déjà au XVIIIe siècle. Il y avait déjà cette préoccupation d'histoire pour les documents les plus anciens. Mais pour les documents les plus anciens qui n'étaient pas déjà nécessaires pour l'administration des majorats, surtout. Alors enfin, et ça nous intéresse aussi, nous sommes toujours en garde avec, contre les historiens qui utilisent les inventaires comme source, mais avec les précautions, il est intéressant de voir ce côté-là. Les inventaires comme source pour la connaissance des documents disparus. Parce qu'il y a énormément d'archives de famille que nous ne connaissons pas qu'à travers ces documents. Et donc, il y a des centaines, parfois des milliers de documents que nous ne connaissons pas, qui sont disparus. Le plus souvent, ils ont été même détruits par les familles après l'abolition des majorats, parce qu'ils n'étaient plus nécessaires, ou ils ont été vendus, etc. Ou ils ont passé au bureau de l'État qui a aboli la propriété vinculaire, ou à des œuvres pieuses, etc. Mais les inventaires, parce qu'ils étaient très souvent soit dans la bibliothèque, soit dans le bureau du propriétaire, du seigneur de la maison, ils n'ont pas été détruits. Et ils ont été vendus pour la plupart, ceux qui ne sont encore pas dans les mains des propriétaires, ils ont été vendus aux enchères pendant le XXe siècle comme des documents intéressants, précieux aussi, parce qu'ils étaient beaux très souvent, etc. Alors, donc, ces questions étaient les questions de partie. Maintenant, nous sommes, deux tiers du temps. Quelles sont les questions que nous avons à ce moment? Il y a des questions sur le corpus. Il y a des questions de critique de la source, questions de description archivistique et de création des fichiers d'autorité. Ça sera un peu expliqué par Philippa, parce que ça a été fait dans le logiciel. Et ensuite, on peut dire quelque chose sur comment passer de la critique de la source aux interprétations et proposer quelques regroupements d'interprétations. Alors, il faut avouer que le corpus est fruit d'une constitution hétérogène. Et qu'il est en effet très mince par rapport aux familles existantes. Je suis certaine qu'il y a beaucoup d'autres inventaires et je suis certaine qu'il y avait beaucoup d'autres archives de famille, mais nous n'avons pas réussi à réunir qu'une quarantaine. Pas même 40. Notre corpus a été constitué avec des archives de famille que le groupe étude, parce que nous avons quatre doctorantes qui travaillent dans des archives de famille, leur thèse, et qui ont des inventaires, des articles que nous sommes en train de faire. Et ces archives sont privées, ces archives qui sont travaillées dans les thèses ou semi-privées. Il y a des fonds d'archives de famille dans les archives publiques, mais qui sont souvent inventoriés d'une façon sommaire. C'est difficile d'identifier les inventaires. Et il y a des fonds d'archives de famille encore chez les propriétaires. Et nous avons dans cela un réseau informel. Et comme ça, j'ai dit qu'il y a beaucoup d'inventaires. On sait qu'ils sont là, mais on n'a pas l'accès. Bon. Et j'avais déjà parlé de ça, c'est que pendant le 19e et le 20e siècle, il y a eu une massive dispersion des archives de famille qui ont été très souvent vendues par les inventaires et par les propriétaires. La constitution des inventaires comme objet précieux a causé sa vente, son achat, hors de l'ensemble de la documentation et son placement en des collections, souvent dans les bibliothèques et pas dans les archives seulement, mais aussi dans les archives. Donc, ils ont été séparés, comme j'ai dit, même quand des archives, qui soit ils ont été détruites, soit ils sont conservés dans les familles et vendus aux enchères, mais d'une façon disperse. Ces documents posent beaucoup de questions de critique de la source et de description, etc. Beaucoup de ces documents ne sont pas datés. Ils n'étaient pas datés au moment de son élaboration. Beaucoup sont endommagés et ils n'ont pas d'auteur, de producteur explicite. Donc, il nous a fallu donner des dates critiques. On doit encore choisir quelle est la place à l'individu et quelle est la place à la famille dans la production. Ça, c'est une question théorique aussi. Il s'agit de voir quelle est la place de l'individu dans la famille, dans ce contexte du corps familial de l'ancien régime. On sait que tel ou tel monsieur disait, ordonnait de faire l'inventaire, mais en effet, il ne faisait ça que pour, en fonction de son rôle dans la famille. Mais on voit que ni tous les chefs de famille dans toutes les générations font des inventaires. Donc, il y avait quelques-uns qui avaient une conscience plus claire de l'importance des inventaires. Ces inventaires, on continue à les utiliser, ça c'est clair. Donc, il ne faut pas donner des dates fermes, closes pour son usage. Et enfin, il y a les questions de tout le monde qui travaille ces archives de famille, c'est qu'il y a des archives dans des archives, non ? Les majorats, les chapelles et d'autres genres de propriétés, un général de propriétés vinculées, entrées par le biais des testaments, etc. Et en ce cas-là, on dit que c'est l'inventaire de la famille productrice ou de la famille accumulatrice. En effet, c'est la même chose. Ce sont les deux choses parce qu'ils ont été continués à être utilisés. Mais pour la description archivistique, normalement, ça pose des problèmes techniques qu'on peut résoudre, mais qu'enfin, il faut regarder. Bon, aussi, c'est une autre question que nous avons trouvée. C'est bien sûr une chose normale, mais c'est la difficulté de faire l'histoire des inventaires sans organiser préalablement les fonds d'archives, qui beaucoup de fois ont disparu. Et sans une histoire, même que moyennement approfondie des familles. Donc, il n'est pas facile de faire la description archivistique sans, bien sûr, l'étude du contexte historique et archivistique global. Et quand les archives ont disparu, c'est vraiment désespérant parfois. Quel est le modèle que nous devons suivre dans la classification de ces documents ? Pas vraiment de ces documents, mais dans les archives de famille. Et dans la thèse, nous utilisons les cadres de classement organique basés sur la généalogie des producteurs. C'est une proposte qui a été suivie au Portugal dans les archives de la Casa de Mateus et que nous trouvons très, très, très intéressante et qui, par exemple, propose de conserver les archives intégrées dans les archives de la famille principale comme système familial qui ne se mélange pas avec celle de la famille principale. Mais pour la plupart, les archives que nous trouvons déjà dans les fonds, dans les archives publiques, ne sont pas organisées comme ça. Très souvent, elles sont organisées avec cette mode des thèmes, et avec des fonctions. Des fonctions qui sont souvent très anachroniques, comme celle de la gestion, comme celle culturelle, par exemple, qui font que les documents de messe sont dans la gestion, tandis que, selon moi, c'est très discutable qu'on doit mettre que la question des messes obéissait à des questions de gestion, en plus parce qu'il avait la contrainte. Donc, toutes ces questions ont mené à que on a choisi pour utiliser ces cadres de classification organique comme dans la base de données on pourra faire voir. Bon, dans les inventaires conservés aux archives publiques, il y a beaucoup d'identifications erronées. Mais on a dû les suivre parce que nous devons mettre le code de référence dans notre base de données. Autrement, les personnes ne pourront pas repérer les documents. Mais ces identifications erronées se réfléchissent dans le code. Par exemple, Philippa va aussi montrer ça. Bon, enfin, une chose qui est vraiment importante pour nous, parce que je trouve que pour nous, nous trouvons qu'il faut toujours commencer, pas du moment historique et venir jusqu'au présent, mais du présent jusqu'au moment historique, la custodie archivistique donc, se révèle très importante pour cette étude, mais elle est très difficile à faire. On sait que les inventaires ont entré dans la Bibliothèque nationale, mais il y a des registres qui ne disent pas à qui ils ont été achetés, etc. Bon, après ces questions de critique de source, j'entre dans la question des interprétations possibles, commençant par des interprétations d'un niveau plus simple. Il faudra une réflexion approfondie sur les conditions de la transmission, aussi que sur les habitudes, usages, règlements d'inventorisation par les familles ou qui étaient imposés aux familles, comme très souvent c'était le cas. Donc, il faut reconstituer, il faut qu'on se place du côté de l'information produite et non du côté de l'information qui est arrivée jusqu'au présent. Donc, cette réflexion doit inclure les inventaires qui sont perdus, pas pour une question de nombre, mais par une perception correcte de cette production d'inventarisation, ou d'informations inventorielles, comment les familles regardaient l'inventorisation de leur production d'informations. Dans une vision pas anachronique, donc pas de la fin de l'histoire, mais du moment actif de production. En parallèle, il faudra bien sûr, ça se pose pour les inventaires et logiquement pour toute l'information produite. Il faut regarder, pas rétrospectivement sur la production d'informations. Bon, en parallèle, il faut essayer de définir qu'est-ce qu'on considère inventaire. Tout le monde qui travaille ce genre de documents, c'est qu'ils ont un caractère multiforme, soit quelques-uns avec des généalogies, avec des histoires de la famille, et aussi très différentes, organisées par des majorats ou organisées par des typologies documentaires, etc. Enfin, vient la question insurmontable de l'importance des définitions d'archives et archives de famille. C'est un collègue qui a parlé de ça dans notre colloque de Lisbonne. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que sont des archives et qu'est-ce que sont des archives de famille ? Un ancien régime. Quelques regroupements conduisant à l'interprétation que nous pouvons faire à ce moment-là. Sur notre trentaine, quarantaine d'inventaires. Est-ce qu'on peut dire chronologique, typologique par inventaire, sociologie des familles, type de propriété impliquée et pression extérieure aux familles? Toutes ces catégories vont être importantes pour l'interprétation des documents, du corpus, dans son ensemble. Alors, mais commençant par le regroupement chronologique, il faut être très attentif. On ne peut pas parler d'une évolution chaque fois plus parfaite du point de vue technique des inventaires. Ça, c'est une complète anachronie. Parce que tous les inventaires, ils avaient un contexte de production qui conditionnait beaucoup cette question technique. Pour les 18e et 19e siècles, le regroupement chronologique a du sens, semble avoir du sens. car on peut prouver l'existence d'une mode, on peut l'appeler mode, tendance, intérêt et enfin, obligation légale, d'organiser les chartiers. Et ces contextes ont conduit en outre à l'existence des archivistes professionnels. C'était les paléographes, les chartriers, les personnes chargées des chartriers, et aussi de la littérature technique et même des écrits des propriétaires sur l'importance et les façons de gérer les chartriers. Donc à cette époque, on est sûr qu'il y a une réflexion sur la technique de biens inventoriés. Et on peut dire qu'il y a un progrès. Ils discutent des façons plus pratiques, plus convenientes d'organiser les chartriers. Et on peut discerner, on peut voir une évolution. Avant, il me semble hasardeux, du moins avec l'échantillon que nous avons réuni, d'établir des étapes. Bon. Il n'y a pas une progression dans les pratiques d'inventorisation. Maintenant, on est à voir s'il y a un passage, et on peut dire que ça, quand même, un passage de la prédominance de l'inventaire cartulaire, c'est-à-dire un livre de copies des diplômes authentifiés, qui existe plus au XVe, XVIe siècle, aux inventaires listes. Mais par exemple, au XIVe, on voit déjà des inventaires listes ici, à Castille, comme Christina a bien montré à Pau. Mais au Portugal, je n'ai pas trouvé... Mais ça c'est peut-être une question de problème des archives, parce que nous avons des inventaires postérieurs qui semblent avoir été faits sur des listes. Bon, il est cependant, et c'est vraiment ce que je dis, c'est étrange l'absence d'inventaires listes jusqu'à une époque si tardive, contrastant avec les autres royaumes européens. Bon, il y a aussi des choses qui ont à voir avec la sociologie, l'histoire des familles, bien sûr. On voit qu'il y a une précoce et plus commune inventorisation si les familles sont proches à l'Église ou au service du roi. On peut appeler ça la literacy administrative. Si les familles avaient autre pratique de gestion par l'écrit, si nous avons... témoins d'autres usages des archives, même s'ils sont des usages symboliques, par exemple, au littéraire, écriture de chroniques, etc. On peut espérer que ces familles, on peut imaginer, si nous n'avons pas les sources, que ces familles organisaient le plus souvent leurs archives. Pratiques symboliques d'affirmation de la famille, beaucoup de fois, des histoires sur les blasons, etc., qui ont petites histoires sur le blason de famille, etc., ils disent qu'ils se trouvent dans l'archive, la justification, les documents, etc. Bien sûr que la richesse, la dimension des biens et la distribution géographique des familles influençaient l'inventorisation. Quelques-unes avaient nécessité d'avoir des différents chartriers parce qu'elles avaient des droits dans les endroits. Donc, bien sûr que ces familles étaient plus disponibles à inventorier. Il y a bien sûr des circonstances concrètes qui impliquaient les inventaires. Les mariages, les décès, la minorité des héritiers, etc. Il y avait des inventaires qui étaient faits à cause de cela simplement. Et enfin, par exemple, les majorats avaient très souvent des obligations archivistiques. À la mort, à l'association, il fallait organiser l'archive, etc. Enfin, comme j'ai déjà parlé de ça, au XIXe siècle, surtout, il y a clairement un groupe de familles apparentées, qui sont apparentées entre eux, mais les familles titrées portugaises du XIXe siècle sont toutes apparentées entre elles, qui reconnaissaient l'importance de l'organisation des chartriers et qui font recours aux mêmes archivistes, aux mêmes chartriers pour faire ces inventaires. Il faudra enfin tenir compte pour ces interprétations des pratiques d'inventorisation gérées par les caractéristiques institutionnelles de la propriété familiale. Soit que cette propriété était immobilière, soit qu'elle était un droit. J'ai déjà parlé de ça à propos de diverses choses. Maintenant, je vais expliquer clairement qu'est-ce que ça veut dire. Il avait de la propriété qui avait obligation de cadastre des titres et des biens, les majorats, les chapellenies, les institutions pieuses de gestion laïque, les biens de la couronne, c'est une façon de possession des biens qui étaient de la couronne, mais qui étaient donnés aux personnes par une vie, deux vies, trois vies. Et quelques-uns restaient là dans la famille pendant des générations, mais ne perdaient jamais un caractère public. Donc, à l'association de chaque roi, il avait l'obligation de faire le cadastre. Alors, et les maisons titrées aussi, elles avaient des obligations de documentaires d'inventorisation. Et il avait aussi des biens qui pouvaient être le même, dont la preuve documentaire devait faire face à la concurrence des administrations plus structurées, c'est-à-dire l'Église et l'État. Donc, ces familles qui avaient des titres de patronat d'église, ces familles qui avaient des listes, des documents de service au roi et des faveurs royales, etc., faisaient très souvent des inventaires de ce genre de documents parce qu'autrement, ils risquaient que l'église, la diocèse, la couronne, le fiscal, etc., entrer dans leur maison avec une liste plus complète ou que semblait plus complète que la leur. Donc, ils le faisaient très souvent. On voit qu'ils avaient peur de perdre ce genre de documents parce que les chartriers de l'Église et de l'administration du roi étaient plus organisés. Enfin, il y avait, comme j'ai dit, des pressions extérieures pour inventorier les lois du royaume, les existences, j'ai un peu quelque chose en mélangé, et après la moitié du XVIIIe siècle, jusqu'à à l'extension de la propriété en lié, j'ai mis ici, je sais que ça n'existe pas en français, mais moi, je me suis oublié de corriger, la propriété de majorat surtout, mais aussi de chapellenie, au Portugal, elle a été abolie en 1863, il a eu toutes ces circonstances, tous ces moments d'enregistrement des documents dans les services, dans les bureaux de la couronne. Alors, quels ont été les inventaires étudiés? Je vais passer ça parce que Philippe va montrer, mais c'est une liste des inventaires que nous avons étudiés par famille. Donc, vous pouvez voir que nous avons pour quelques familles beaucoup d'inventaires, pas pour tous, mais. Alors, la base de données, c'est Philippa qui va montrer. Et merci. Si.
Buenos días a todos y a todas. Je vais parler en français parce que je ne sais pas parler en espagnol. Pardonnez-moi. Bonjour à tout le monde. En première place, je souhaiterais remercier l'organisation et professeur Tone en particulier. Je tiens aussi à remercier professeur Lurch parce qu'elle m'a invitée pour partager cette communication avec elle. Je vais passer à la présentation. Dans cette deuxième partie, je vais souligner le logiciel où sont les descriptions des inventaires de notre projet. Les objectifs sont présentés. Expliquer l'interaction avec l'application du point de vue de l'utilisateur. Démontrer comment cette application est un outil qui favorise la diffusion et l'accessibilité aux inventaires étudiés de notre projet. Voici en sommaire des principales questions. C'est que l'ICATOM, l'installation et l'utilisation, l'architecture technique de l'ATOM, l'accès à l'ATOM, Archive historique, puisque c'est le nom de notre logiciel, ouverture de session, effectuer des recherches. aussi ajouter, éditer, et sont les trois principaux types d'enregistrement de la tombe, description archivistique, institution de conservation et fichier d'autorité. Je vais donner un exemple, l'inventaire de Don Philippe de Souza et à la fin de la présentation, les avantages pour l'inventaire. Qu'est-ce que c'est la tombe? On a ici la page officielle de la tombe. Quelqu'un peut chercher dans l'Internet. Il est en français, en portugais, en espagnol. Qu'est-ce que c'est la tombe? La tombe ou simplement Atome. C'est une application web open source à source ouverte pour la description archivistique et l'accès. Elle repose sur les normes délivrées par le International Council on Archives, en français Conseil international des archives, l'acronyme c'est ICA, ou simplement ICA ATOM. Ces normes sont notamment l'ISAD, ISAR, ISIDIA, ISEDF, c'est un langage plus technique que les archivistes comprennent, mais les historiens. C'est un peu difficile. L'ATOM est l'acronyme de Access to Memory, accès à la mémoire. ATOM est une abréviation de l'appellation ICA-ATOM utilisée dans les versions plus récentes. Fonctionne dans un environnement multilangue. Et une seule instance d'ATOM peut être utilisée par une seule institution pour ses propres descriptions, mais elle peut aussi être utilisée par un réseau de services d'archives en système collaboratif. Pour apprendre sur l'installation et l'utilisation, on peut consulter le manuel qui est disponible dans l'Internet. Je ne vais pas approfondir cette question. Je vais passer à l'explication que notre logiciel est installé dans le serveur de notre faculté et qu'il faut avoir une connexion à l'Internet parce que cette application est entièrement conçue pour l'environnement web. On a ici une image de l'architecture technique de l'ATOM. Je ne vais pas expliquer en détail parce que je ne maîtrise pas cette langue plus technique, mais on peut voir que l'accès à l'OEV est le principal pour pouvoir ajouter les enregistrements. Nous avons la page officielle de notre ATOM, c'est la partie plus importante. Le nom, c'est ATOM Archives Historicus, parce qu'il accueille, au-delà du projet Inventarc, les descriptions des autres archives familiales étudiées par les doctorants en archivistique historique de notre faculté. Il sera probablement modifié quand les données seront exportées à une autre installation. J'avais ici quelques explications pour utiliser l'ATOM, mais je pense que je n'ai pas du temps pour expliquer tout en détail. On peut ouvrir notre session qu'on a déjà un compte enregistré. Ces logins correspondent à un profil d'utilisateur avec des privilèges d'administrateur, que c'est mon login, mais il y a des autres types d'utilisateurs, comme contributeurs, éditeurs. C'est une plateforme très flexible et on peut changer les privilèges de chaque utilisateur. On peut effectuer des recherches. Il y a une zone supérieure de menu horizontal au centre qui peut être utilisée pour faire des recherches, mais on a aussi la part de la recherche globale et avancée qu'on voit dans l'image. Et aussi, on peut consulter le menu à gauche, la partie naviguer par. On peut consulter des enregistrements qui sont déjà créés. On a une image de notre base de données ici. Il suffit d'insérer dans l'image antérieure, insérer le mot qu'on va chercher dans la part supérieure, au centre, et il présente les résultats à bas. On peut ajouter, éditer, gérer. C'est dans la partie supérieure du menu horizontal à droite et utilisé pour l'insertion des enregistrements. On peut aussi changer les critères de consultation, modifier les noms d'utilisateurs. On peut enfin changer beaucoup de choses pour adapter le software à nos nécessités. On va parler des trois principaux types d'enregistrement. La description archivistique, c'est où on fait la description des inventaires. Nous sélectionnons ajouter une description archivistique et on fait la description selon la ISAD, Norme Générale Internationale de Description Archivistique. Il y a une part qui c'est pour l'identification, une zone de contexte, une zone pour la structure de la pièce qui est décrite, une zone pour des conditions d'accès d'utilisateurs, une zone pour les sources complémentaires, comme on voit selon les normes, et aussi nous pouvons mentionner les sources consultées, que c'est important. On voit ici le menu d'édition ouverte. On peut insérer l'identification dans chaque champ. Les champs qui sont obligatoires sont marqués d'un astérisque, comme on voit dans l'image. Il y a aussi des notes qui sont fournies et qui expliquent le contenu à remplir en chaque champ afin de faciliter le travail. Ce sont les normes résumées pour auxilier le travail de qui est en train de remplir cet enregistrement. L'ATON permet une description multiniveau, du fond à la pièce, qui peut être un document simple ou composé. On doit sélectionner ça au niveau de description de chaque description. C'est la prochaine image. On voit ici, dans l'image, les options pour la description. Et dans l'image prochaine, on voit le résultat de la description. Une description qui est multiniveau. On a le fond, c'est un exemple Casa de Palmela. Si on fond, où est un des inventaires que je vais présenter. Je vais présenter l'inventaire de Don Philippe de Souza. Et on voit le fond, les sections, la série et enfin la pièce qui est insérée en contexte dans cette fonte. À chaque description archivistique doit être associée une institution de conservation et un ou plusieurs fichiers d'autorité dans la zone de contexte. Ces enregistrements doivent être faits avant la description de la pièce pour qu'on puisse les sélectionner. On ne doit pas écrire le nom du producteur directement dans le champ parce que les enregistrements ne soient pas répétés. On voit l'exemple dans l'image. On introduit une lettre et la liste d'enregistrements déjà créés apparue automatiquement. On a ici, dans la prochaine image, les institutions de conservation qui sont déjà créées dans notre base de données. Ils sont des familles, qui peut être l'institution de conservation, la Bibliothèque nationale ou même les archives nationales. Il faut faire un enregistrement pour chaque institution de conservation. Pour faire ça, il faut ajouter un service d'archives. Pour remplir cet enregistrement, on doit suivre la norme ISDIA, norme internationale pour la description des institutions de conservation des archives. En dehors, nous avons les fichiers d'autorité. Pour chaque description archivistique, on doit créer des fichiers d'autorité cet fichier. C'est le registre du producteur ou du accumulateur au conservateur de la documentation. On voit ici, pour ajouter cet enregistrement, il faut ajouter une notice d'autorité. Pour remplir cet enregistrement, on doit suivre la norme ISAR, norme internationale sur les notices d'autorité utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes, aux familles. Il peut être une institution, il peut être une personne, l'auteur de l'inventaire, par exemple. Il peut être la famille productrice, ou il peut être aussi... la famille qui a conservé l'inventaire en cause. Nous avons aussi un exemple, l'inventaire de Don Philippe de Souza, qui a été produit, non, il n'est pas daté, il a été produit probablement à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle. Et dans ce registre, on peut voir avec promeneur en détail la zone de contexte que j'ai parlé antérieurement, le nom des producteurs et aussi la part de l'institution de conservation. On va commencer par l'institution de conservation. On ajoute dans la zone de contexte l'institution de conservation et après, quand on a accès à description archivistique, on peut ouvrir l'enregistrement et on a l'information sur l'institution de conservation, tous les champs qui correspondent à la norme ISDIA. Après, on peut voir la part des fichiers d'autorité qui sont les producteurs des inventaires. En ce cas, on a la famille qui a produit l'inventaire de Don Philippe de Sousa et on a des informations, une petite généalogie de la famille et nous pouvons aussi établir les relations entre les membres des familles associées au inventaire, le père, le fils, etc. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais finir. On peut ajouter aussi des objets digitaux numériques. On peut additionner les pages des inventaires à chaque description archivistique. Finalement, les avantages pour l'inventarque. C'est une application qui n'a pas une licence payée et de source ouverte. Est disponible en ligne. Son caractère multilingue facilite l'accès et la divulgation. La description des inventaires dans ces contextes archivistiques, c'est important et c'est en base donnée que c'est très intéressant par cela. Et aussi l'interaction entre les enregistrements de la institution qui les a produits, la famille, l'individu, etc., la institution qui les a conservés et aussi la description de chaque inventaire. Je vais finir et merci beaucoup de votre attention.
Gracias por esta intervención dual, muy bien coordinada. Y damos paso ahora al debate o coloquio. Yo creo que los profesores Perortiga pueden subir. Hay dos sillas allí en esta y que eso facilitará. Disponemos de cerca de media hora, si fuera necesario, para el debate o coloquio posterior.
Extensísima en casos en los que aparecen en esos archivos nobiliarios en los que que en algunos casos además se dedican también a otro tipo de labores económicas aparte de ser rentistas. Y al profesor Pérez Ortiz le dio una pregunta. Estábamos siguiendo muy atentamente los censos epidémicos y la posibilidad de la odemia que tienen los, vamos a llamarles señores, o los que tienen el dominio eminente de la cosa, vamos a decirlo así, que cuando hay un traspaso pueden de alguna manera consentir o no consentir, y decía que habitualmente consentían, ¿no? Y por lo tanto, si no, pues tendrían que pujar en la misma, en el mismo coste y recuperar el dominio. Bien, puede ser que sea así, pero me gustaría saber si esa afirmación procede de una ausencia de documentación que diga lo contrario, o me explico. Si tiene documentos, hay documentos en los que el señor aplica el audemio y hace una especie de recompra. O bien simplemente, como no existe, como existe la tolerancia y el audemio se da, entendemos de que casi nunca ha habido por parte del señor un interés en recuperar ese dominio útil. Pero pienso, debemos pensar, que muchas veces podría haberse presentado ese traspaso, el señor decir no y quedar ahí y renovarse en la situación anterior. Hay otro tipo de negocios en el País Vasco que sea eso. Entonces, solamente podríamos decir de que no se aplica el audemio cuando tenemos constancia de que ha habido veces que se ha aplicado, porque si es la ignorancia absoluta de casos en los que se ha aplicado, podemos estar ante la circunstancia en la que el señor ha dicho que no quiere y el campesino pues dice, bueno, ya puestos a hacer el traspaso y recuperar el dominio útil, me lo quedo, pero sigo quedando yo. ¿Entiende la observación? Esto lo pongo en paralelismo con las cartas vizcaínas de nuestra tierra, en la que muchos nobles prestaban servicios de armas a la corona, y cuando el señor llegaba a cierta edad, pues le interesaba pasar ese contrato, que era un fondo de bolsa, por los cuales determinados ballesteros y lanceros servían a la corona con una renta de 20.000, 25.000 maravedís al año, luchasen o no luchasen, es una renta interesante como para aprenderla gratuitamente, y cuando el señor envejecía y decía, bueno, yo no estoy para cupones, que vaya mi sobrino, y se le pasaba una carta a la corona ofreciéndole que su sobrino fulanito de tal tendría la misma responsabilidad que yo, y que aceptase este cambio, que en caso de no aceptarlo, él seguiría en la lucha, ¿Entendido, no? El ejemplo. Bueno, pues mi observación, si quiere,
Daniel,
y mi pregunta, que es más
breve. Por orden, profesor.
Bien, yo he intentado explicar que en ese orden y desorden, algunos libros de cuentas eran necesarios porque servían para la estimación del patrimonio y para las valoraciones sucesorias, y otras no eran necesarios y generalmente se perdían, ¿no? Pero en este caso, seguramente se han perdido los manuales generales de contabilidad de este patrimonio, ¿no? De estas, y en cambio se han conservado lo que podríamos decir eran los apuntes, lo que generalmente se suele perder. No lo digo porque en general en Mallorca sí que se han conservado, de hecho yo hice mi tesis sobre contabilidades agrarias, por tanto, se han conservado básicamente para el siglo XVIII, para siglos anteriores son muy excepcionales y si hay suerte se conserva generalmente el libro de Administración General, pero claro, no era el tema de aquí, ¿no? De cómo después a partir del libro de Administración General de un patrimonio se van desarrollando libros de cuentas para cada uno de los negocios o de las explotaciones que tiene un patrimonio, y dentro del libro de cuentas de explotación, este libro de cuentas de explotación se forma a partir de lo que se llamaría los libros de cosechas, los libros de propiamente de ingresos, los libros de salarios o los libros de jornales o los libros de esas jornaleras que aquí lo único, en este caso lo que pasó es que lo que sí se ha conservado para otros patrimonios, que era ese libro, claro, de cuentas generales donde estaban las anotaciones, todos esos más, digamos, vulgares que se solían perder, pues en la mayoría de los casos se han perdido. Tenemos pocos libros, por ejemplo, de nominativos de los mozos o de los jornaleros, y en cambio aquí ha sucedido todo lo contrario, ¿no? Los que se solían mantener se han perdido porque fueron utilizados para hacer las valoraciones y los peritajes en ese pleito que hubo en 1680, y quedaron abandonados en un rincón esos libros de jornaleras y mozos. No, no, en Mallorca sí que, sobre todo para el 18, se mantienen administraciones contables extremadamente completas y extremadísimamente complejas, ¿no? Porque llegan hasta la contabilidad de la inversión que se realizaba cada año en cada uno de los predios.
Profesor, bueno, sí que hay maneras de ver si, sobre todo en determinados ámbitos, si se aplica o no el derecho a fadiga y si se recompra el dominio útil. Como intento explicar, el proceso es: pactamos la compra-venda, vamos al notario y después vamos al señor. En el caso de que se aplica el derecho a fadiga y no se concede o no se autoriza la venta, hay que cancelar en la entrada notarial y, por tanto, el documento parece cancelado. Yo, en los casos que estoy trabajando en el Fondo Notarial de San Feliu de Guíxols, solo he encontrado cancelaciones de este tipo cuando el comprador es una institución eclesiástica y pasa a mano muerta. Entonces, el abad es normalmente… desautoriza esa venda y se cancela. No recompra, en este caso no autoriza, y entonces el vendedor busca otro comprador, ¿eh? Y se realiza otra venda al cabo de unos meses, ¿eh? Son los pocos ejemplos que he encontrado. Es posible que en otros contextos esto pueda pasar más a menudo. Yo, por ejemplo, encontré en un cap breu que hace el monasterio de Pedralbes, que está al lado de la ciudad de Barcelona, que registra todos sus mansos de la zona de Sarria, en el mismo cabreo se decía: hay que evitar por todos los medios que las tierras de los mansos sean sobreestablecidas a ciudadanos de Barcelona. Bueno, pues la única manera para evitar eso es aplicando o el derecho a fadiga o no autorizando la venda. O sea que, según, en algunos contextos eso puede pasar, pero yo materialmente lo he visto en muy pocos casos.
Sobre la fragmentación territorial como un elemento dinámico para el desarrollo de lo notarial, ¿no? No, parecería que la historia positivista nos ha estado diciendo justo todo lo contrario, ¿no? Que la estructura estatal jerarquizada, ¿no?, es lo que permitía unos sistemas de organización del escrito y del papel, ¿no?, que nos ha permitido conservar, guardar, tal. Me alegro enormemente, ¿no?, de volver a poner el plano mucho más actual de la investigación ahora, ¿no?, de que la fragmentación territorial, el estudio de lo local, es lo que realmente genera una dinámica en la propia creación y gestión del papel. No puedo estar ahí más de acuerdo, ¿no? Me parece, a mi modo de ver, que lo que nos falta es entender realmente o trabajar más en profundidad el proceso de conservación o de destrucción del papel inicial. Porque, aunque empezamos a saber más cosas, uno de los trabajos que proponemos en el taller de marzo, de Miguel Calleja, están empezando a estudiar la destrucción de libros a medida que ya se encuentra otra fórmula de conservación de la información. Claro, si tenemos libros, lo habéis explicado, cuando ya tenemos inventario sistematizado podemos llegar a destruir los originales, pero es que sabemos poquísimo todavía de esos momentos iniciales para 13, para 14, para 12, incluso antes, que nos expliquen el porqué se pierde el papel. Yo sí creo que hay que reflexionar, quizá en términos más generales, en comparación con otras culturas, incluso con otras sociedades coetáneas, pienso en grupos islámicos en los que la noción del archivo no existe, ¿no?, en la misma proporción o bajo los mismos conceptos, ¿no?, que existen para los archivos de la Europa occidental, ¿no? utilizar la alimentación o los sistemas de conocimiento están más planteados en las casas y las escuelas y no en sistemas de organización de gestión específicos de señores, reyes, etc. No me alargo por ahí, pero sí creo que esa fragmentación territorial es fundamental también para entender que quizá hemos explotado mal el acercamiento que la mayor parte de la población, de las poblaciones medievales, tiene a los titulares. Nos hemos empeñado en decir que hay un desfase enorme entre las élites cultas, quienes pueden gestionar, ¿no?, el mundo del poder, frente a la inmensa mayoría de analfabetos. Tenemos ya trabajos, se ha escrito muchísimo, muy buenos, ¿no?, para intentar matizar y perfilar más los grados de alfabetización y de acercamiento al escrito, ¿no? Felizmente estamos ya también en ese proceso de avance, pero esta fragmentación de la que planteas, esta presencia enorme de notarios, de manos distintas, de testigos, hace que realmente en el 9B haya una inmensa cercanía de la importancia de lo escrito para las poblaciones campesinas, menores, tal, aunque no sean capaces de matizar o de escribir o de llegar a grados, ¿no? Pero si no solo conservan sus papeles, saben perfectamente que la mayor parte de los ritos obligados de vida pasan por delante de gente que tiene la educación o la capacidad de hacer. Perdón, que siempre me alargo, ¿eh? Una segunda cosa a propósito de lo que planteaba, bueno, al hablar de segundones a mí se me eriza ya un poco el pelo, porque es que podría ser uno de los fabulosos momentos dinámicos cuando estamos ante segundones de la casa o cuando estamos ante una muerte por accidente o nos hemos quedado sin los herederos primogénitos o tal, porque parecería que todo lo que se va organizando de linaje paulatinamente, paso a paso, ¿no?, de repente se destroza, hay que recomponer toda la situación y eso supone una necesidad de gestionar de nuevo, ¿no?, el papel y la información sobre el señorío, que convierte ese momento en un prototipo para repensar qué es lo que estábamos viendo sobre la creación de la lineal del linaje, ¿no? Y a raíz de eso, simplemente una cosa que parecería que nos llama la atención, que en las sociedades medievales, en las sociedades del antiguo régimen, los pleitos puedan alargarse tanto, ¿no? Nos parece llamativo porque, claro, estamos utilizando una noción de la justicia o de la resolución del conflicto que tiene que ser inmediata. Eso es lo que caracteriza a nuestra sociedad, pero no a las sociedades del antiguo régimen. Entonces, el pleito dura porque todos los grupos siguen conviviendo con el pleito. No sucede nada en términos relativos, ¿no?, lo que estoy diciendo, ¿no? En las casas nobiliarias están absolutamente acostumbradas a pelear. Todo sigue igual mientras se generan papeles, justificación de derechos, se llevan a las instituciones, vuelven, se hacen otras alegaciones. Los mansos o las casas o las parcelas de ese señorío siguen funcionando al margen de que unos titulares u otros sean los que detengan los derechos finales. Y esto mejor lo olvidamos, porque todavía estamos muy sesgados en entender el archivo, los archivos de familia, más los nobiliarios, pensando solo en la cúspide, pensando solo en la cima de la familia fundamental, del tronco fundamental del archivo señorial. Lo cual yo considero que es, sin un error, por lo menos, una dificultad para llegar a ver, ¿no?, esas escalas menores y continuas, ¿no?, que se dan en la producción. No nos asustan los pleitos hasta el siglo XVIII con la utilización de la memoria, ¿no?, de los primeros derechos que nacen en el 13 o en el 14.
Profesor, sí. No solo un comentario sobre el tema de la alfabetización. Tenemos datos suficientes para saber que muchos campesinos sabían leer, escribir y contar, aunque sean serviles. Tenemos tipos de documentación que nos expresan directamente esas capacidades. Una, cuando los tutores acaban su periodo de tutorización de los menores, y tenemos constancia de tutores campesinos, han de presentar un libro de cuentas que es revisado cuando el menor ha llegado a la mayoría de edad y esos libros se presentan. Dos, las universidades rurales nombran jurados anuales que también han de presentar un libro de cuentas y hay otros campesinos que son oidores de cuentas que revisan esas cuentas. Y en tercer lugar, hay inventarios de bienes de mansos remensas que tienen libros, que son los mismos libros que tienen los ciudadanos de Barcelona para aprender a leer y a escribir. Esas son las fuentes principales. Evidentemente, no todo el mundo sabe leer y escribir, pero a la inversa tampoco. Y hay muchos mecanismos y muchos miembros de la comunidad que saben leer y escribir, y por tanto, aquel que no sabe leer y escribir se meterá a un vecino que podrá leer y escribir. Eso. Por tanto, eso de que la lectura y la escritura es un monopolio de una élite, bueno, seguramente hay mayor nivel de alfabetización durante el largo proceso de proletarización ligado a la industrialización que en las sociedades de antiguo régimen, y eso pues también nuestro colega de Moderna lo ha mostrado muy bien, ¿no?
Sí, dos comentarios, ¿no? Empiezo por el final, por el del pleito, ¿no? A mí no me sorprende la duración de los pleitos, ¿no? Me parece absolutamente innata. Y eso lo aprendí cuando estaba haciendo la tesis al principio, sobre los años 90, sobre un patrimonio sobre el cual se podía hacer una tesis, no como este que es muy complicado, ¿no? Lo aprendí porque en el archivo siempre había el heredero del patrimonio que seguía ordenando papeles. Y de vez en cuando me comentaba que su tío Guillem de Montgrí había perdido no sé qué bien y que ahora él intentaba recuperarlo y tal. Y claro, me pareció que su parentela era muy, muy amplia y le pedí a ver este Guillermo de Montgrí, dónde vivía y tal. Me dice, hombre, es que este murió en 1297. Claro, ciertamente era de aquí, de l'Empordà, entonces eran la familia Torrella. Claro, enseguida comprendí que había cosas que para ellos eran normales, que era referirse a una parentela que a lo mejor hacía 500 años que había desaparecido y seguían manteniendo los papeles vivos para recuperar no sé qué. Por tanto, es cierto, ¿no? Y además en estos pleitos, aunque la estructura del pleito y del linaje es muy distinto a la Castilla de los siglos XII, XIII, XIV o incluso anterior, porque aquí no el que articula el señorío, el linaje no es el señorío, sino que es el patrimonio de la casa y las alianzas que se establecen a partir del XVI, XVII, son sobre todo para que, de alguna manera, ese patrimonio no salga de ese entorno familiar que se va recreando, ¿no? Y sobre todo porque sobre ese patrimonio pesan gran cantidad de censales, que son los que alimentan, según dones, y una amplia red familiar, ¿no? Por tanto, no es exactamente igual, aunque seguramente en muchos comportamientos debe ser muy semejante, pues la base patrimonial, por decirlo así, es distinta, los bienes libres también juegan un elemento distinto, ¿no? Y es cierto que muchos de los pleitos que empiezan en Mallorca empiezan mucho después de la formación de los fideicomisos, a partir del 16, 17, prácticamente no se resuelven ninguno de ellos de verdad hasta la eliminación en 1841 del régimen fideicomisario, por tanto, siguen vivos constantemente, ¿no? Y seguramente encontraríamos aún alguno que sigue coleando en el ámbito judicial.
Muy bien, nos queda tiempo para una pregunta corta, a ser posible, y una respuesta también corta, a ser posible. Adelante.
Aparte de todas las que se me han ocurrido, y muy brevemente lo que vamos a hablar de la tarde, intentaré explicarme también brevemente. Sobre el archivo de familia, hasta hace 15 años, digo 15, después 20, solo se han visto desde el punto de vista del usuario que encuentra papeles. Hace una tesis o hace un sistema genealógico. En breve, solo se han un poco, y te estoy dando algunas pistas muy curiosas, se ven como objetos culturales, como existe morada, y no que sean solo utilitarios. Entonces, tener siempre grandes cantidades de descanso es una posibilidad, pero hay tantas otras. Y ahí, al hilo de lo que...
No, no se oye atrás. Sí,
no, que
uno
está mayor, y claro, vamos, se va la voz, ya, casi la estada. Nos decía que los archivos se han visto hasta hace un poco solo como depósitos de papeles y bastardos de familia, quiero decir, ¿eh? Y decía para dos cosas, para hacer un magnífico trabajo de historia, o para hacer muchísimas reglas genealógicas que eran básicamente usadas. Cristina, en las expresiones que hacías de esa manera poliédrica, y ha dado pie a tres o cuatro cosas que nos han dicho, maneras de ver los archivos desde dentro del archivo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Que en un contexto lógico. No porque sí, porque están, porque son los que tenemos. Entonces, bueno, era útil el siglo XIX, era útil el siglo XX. Hoy creo que ya, se nos pasó esa manera de verlos, aunque termine con mucho éxito, ¿eh? Los libros que se publican muchos ven el archivo como algo que está ahí porque sí, y voy a usar para usar datos. Enlazo con eso, con tres frases, pues voy a ser breve. Decía María Lourdes Rosa, y como estamos de acuerdo habitualmente en nuestro punto de vista, es decir, ver ese archivo desde dentro, voy a necesitar solo tres frases para pensar, porque no creo que son para debatir así, porque podríamos hablar muchísimo. Son ilusiones retrospectivas, sabe bien, el archivo que tenemos es una creación cultural y tiene fecha, no se puede pedir comiso, tiene otras, y quizá le pone, nunca sin dar a quién, por qué, para qué. Y hay casos muy curiosos. Es una forma de representar a sí mismo y a los demás y en contraste con los demás. Ya que estoy en Cataluña, me meto un poco el dedo en el ojo. Los países independentistas son porque tienen otros que quieren ser de frente. Si no, no había ninguno. Yo soy fideicomisario porque tengo otro de frente que no, eso sí es. Y ese contraste tan vivo, tan abierto, tan históricamente evolutivo, tan magnífico para estudiar, es un pozo de información que no se ha explotado. Yo me represento de una manera porque el entorno me obliga, porque soy recién llegado, porque soy muy mayor, o sea, desde cuatro generaciones y no me he percatado hasta ahora que tenía competencia. Soy de las antiguas, soy de una familia vieja, soy del siglo XI, soy de la burguesía del XVI. El archivo nace por eso y tiene una forma concreta por eso, nada casual. Y es además un depósito, yo tengo frases de María Lourdes, de información inventariable. Es decir, cuando tenemos un montón de papeles, yo por mi trayectoria, pues tengo la fortuna de ordenar muchísimos documentos vírgenes que llevaban cuatro siglos y todo, esperando que alguien le metiera mano, finalmente lo he dicho, te das cuenta de eso. Es decir, en sí, es una técnica poco usada, que se llama la arqueología archivística, un palabra, pero no me importa mucho, el contexto, las formas, dan mucha más información que los datos que están en muchos sitios, muchas veces, ¿no? Y es muy sorprendente. Creo que ahora, y termino la biografía también a la introducción de Cristina, hay manera, hay un tipo de historiografía, no de la alfabetización, de la cultura, del patrimonio, de otras maneras de ver con otras gafas, que no ha hecho más que empezar. Que cuando empezamos con nuestras reuniones decía, bueno, es la primera vez que vamos a intentar, a lo largo del tiempo, de observar estos archivos, no como colecciones de papeles, inventarias o no inventariadas, al fin y al cabo colecciones ordenadas o desordenadas, sino como lugares culturales, o sea, que tiene mucho sentido y tiene un porqué. Y es aleatorio cuánto y cuándo y las cuentas se consuman o no, como ahora se tiene la opción para nada, realmente para nada, y si la aseguran es por algo y nos interesa mucho indagar por qué. No sé si me explico. Es decir, yo creo que estas jornadas que tendrán continuidad, supongo, es mover el prisma, dar la buena vuelta. Yo que trabajo en este ámbito tanto tiempo, bueno, pues a mí me interesa muchísimo. En este movimiento historiográfico que no veo, que sea muy, muy denso, en Europa sí, pero en el entorno español no, en el que se observen estos depósitos, estas reuniones, con un sentido. No sé si me explico, ¿no? No es papeles, es detrás, hay una sociedad detrás, hay algo que además, curiosamente, se cuenta mal. No se lo cuenta muy bien, ¿no? Estamos completamente beneficiados por lo que nos han dejado los que querían dejarlo de una manera determinada. Y crearon el linaje y el concepto del 15-16, lo falsificaron completamente. Y nosotros todavía estamos ingenuamente metidos en esa manera de ver, ¿no? Es la caja de ver. Es muy sorprendente, ¿no? Creo que es hora de desmontarlo, de desconstruir, un poco como el tema de la alfabetización. Me contaban que como tanto tiempo
no hemos puesto las gafas de ver que hay otra cosa delante nuestra, porque nos han dejado los archivos de una manera determinada, intencionada, ¿no? La reflexión un poco al hilo de lo que decíais, no sé.
Si alguien quiere responder brevemente.
No, sí, espero que consiga. Bueno, yo pienso que esto que Borja dice tiene a ver con esto, planteamiento de una influencia del linguistic turn en los archivos. Ahora se habla del archival turn, del viraje archivístico. Es la importancia, todos esos años después del linguistic turn, ya sabemos los peligros a evitar. Sabemos las cosas buenas a aprovechar. La cosa buena, yo pienso que es la atención al contenido de la forma. La forma tiene un contenido. Para los historiadores, los archivos son una forma de representación y de transmisión del pasado. Si nosotros no interrogamos el contenido de esta forma, no comprenderemos bien cómo utilizar esos materiales. Yo estaba a pensar, por ejemplo, en los pleitos. Los pleitos son una forma de recoger la información del archivo y de darle un contenido nuevo. Es un contenido nuevo después del primer momento porque obedece a un édito jurídico, ¿no? A las órdenes del juiz. Y después es un contenido nuevo porque uno envía unos documentos que piensa que son mejores, pero posiblemente no son los verdaderos, el otro envía otros. Entonces, ese pleito invienta un archivo, invienta una situación de recurso al archivo. No podemos interpretar ningún documento isolado de ese pleito sin tener atención al conjunto del pleito. Es eso que me...
un comentario. Y esa huela pluma, ¿no? El problema es cuando alguien es consciente de la necesidad de construir un archivo. Es decir, el conde X no guarda los papeles para hacer un archivo, sino que a partir de determinado momento alguien, o ese conde o su administrador, ahora estoy recordando en un pasaje de una novela de Federico, Los Virreyes, en los que tienen necesidad... La buena Lampedusa, ¿no? Los virreyes. Tiene necesidad de construir un archivo, ¿no? Tiene la documentación en el palacio, pero tienen un pleito. En Italia se finaliza, creo que es el final del 19, se finaliza el fideicomiso, que había sido reformado en 1812, y tienen un problema sucesorio grave y han de ordenar el archivo, ¿no? Claro, mi impresión es que, por ejemplo, en Mallorca, los que yo he visitado, los archivos eran la ordenación del archivo, a partir de la idea del archivo, aparece, no sé si es cierto o no, ¿no? Pero aparece en un determinado momento en que alguien, por algún motivo, recoge toda la información que había en esa casa y que estaba viva y la ordena, ¿no? Y la encaja, hace un modelo de libros de cuentas, arrendamientos, censales, bueno, etcétera, ¿no? Y la clasifica, la ordena. Claro, yo no sé en esto cuando seguramente estos patrones los conocemos como mínimo desde la sociedad mesopotámica, ¿no? Y había archivos en aquella época, las tablillas estaban en archivos, ¿no? Pero claro, en nuestro caso, en la época medieval o moderna, la necesidad de ordenar la documentación, como tú decías, para un pleito, de alguna manera, porque hay una necesidad, ¿no? Porque a lo mejor hasta ese momento no existía. Eso es lo que cambiará, ¿no? Por ejemplo, en mi ámbito personal, yo puedo tener muchos documentos familiares, pero yo seré un anticuario. Quiero decir, si hay un archivo, es porque hemos dado el paso de ordenar una documentación con algún fin. Ya sé que esto es muy arriesgado, yo no soy archivista, pero bueno, la impresión que me da es esta, ¿no? que en algún momento alguien en esa casa, en esa institución, decide que por algo eso tiene que clasificarse. Y claro, yo, digamos, desde una perspectiva analítica intentaría diferenciar eso, ¿no? El anticuario, la documentación, el volumen de documentación conservada del paso que se da cuando uno piensa que, además de conservarla, necesita clasificarla. Bueno, esto es muy arriesgado, no sé si todos me vais, los que sois del ramo.
Bien, si os parece, esto puede continuar por la tarde, a las 4, en el Archivo Histórico de Girona, ¿no? Es en el Archivo Histórico de Girona.